en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, Monsieur le Président. Merci de votre accueil dans cette séance. Je vais vous parler d'un sujet difficile, particulièrement difficile ces temps-ci, où chaque jour une université supplémentaire vote une motion pour dénoncer la réduction ou les difficultés financières qu'elle connaît. Je vais vous parler d'un sujet difficile dans une assemblée comme la vôtre, puisque nombre d'entre vous connaissez bien les universités françaises, mais peut-être moins bien que vous ne le croyez quelquefois. Et puis d'un sujet un petit peu ennuyeux malgré tout, parce que les universités, on y vit beaucoup, et quelquefois on trouve qu'il n'est pas indispensable de passer du temps à en parler en plus. Bon. Alors, mon exposé se déroulera en 5 points. D'une part, je vous rappellerai quelques éléments de morphologie de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Ensuite, j'essaierai de comprendre ce qui, dans les difficultés ou dans les mauvais classements des universités françaises de par le monde, qu'il faut modérer, vous le verrez, ce qui tient aux caractéristiques des universités européennes, car toutes les universités européennes ont été confrontées au même type de soucis au tournant des années 2000 et ont cherché les mêmes voies de résolution à ces difficultés. Et puis, j'essaierai de désigner aussi ce qui tient spécifiquement à la situation française et à la nature des réformes que nous menons. Puis je conclurai sur la façon dont ce bateau, qui tangue un peu, est susceptible de se comporter dans des tourmentes à venir de l'enseignement supérieur à l'échelle mondiale, qui risque de le bousculer encore beaucoup plus fortement qu'il ne l'est actuellement. Alors, d'abord, je vais vous rappeler des choses que chacun sait ici, c'est que l'enseignement supérieur français et la recherche s'inscrit dans une double segmentation, d'une part de l'enseignement supérieur entre des écoles et des universités, d'autre part de la recherche publique entre des lieux de recherche qui se situent dans les universités et d'autres qui se situent dans les organismes publics et qui, de plus en plus d'ailleurs, se confondent dans des unités mixtes de recherche qui combinent des forces des deux types d'institutions, ce qui ne va pas sans problème. Deuxième élément de morphologie, depuis un demi-siècle, la construction de ce système a beaucoup évolué. Le nombre d'étudiants dans les universités a été multiplié à peu près par 6 ou 7, c'est beaucoup. On est parti d'un total de 214 000 étudiants vers 1960 dans les universités. On est aujourd'hui à 1 300 000 à peu près. Le gros gagnant en effectif de cette croissance, ce qu'on a appelé d'un mot très laid, la massification, ce sont les IUT et les STS, qui ont été multipliés par 45 depuis leur création, 8 000 en 1961, 360 000 aujourd'hui. Les classes préparatoires dont on dit qu'elles ont beaucoup cru, ont cru effectivement, mais moins qu'on ne le pense, puisqu'il n'y a aujourd'hui que 4 fois plus d'élèves dans les classes préparatoires qu'il n'y en avait au début des années 60, multiplication par 4, et phénomène nouveau et dont on parle curieusement peu, développement des autres formations de l'enseignement supérieur, dont en particulier les formations privées, qui ont été multipliées pratiquement par 10 depuis les années 60. J'y reviendrai. Un autre élément de compréhension de la structure de ce système, donc c'est vous avez aujourd'hui 2 300 000 étudiants en France, toutes catégories confondues, multiplication par 7 depuis les années 60, le nombre... ces étudiants se ventilent entre différents types d'établissements, des universités d'abord, dont la part dans l'ensemble de la en pourcentage de l'ensemble de la population, alors que la population des universités est multipliée par 7, s'est réduite. Ça, c'est un fait très notable. Il y avait à peu près 70% d'étudiants de l'enseignement supérieur dans l'université, dans l'enseignement supérieur, dans l'université, au début des années 80. Il n'y en a plus aujourd'hui que 57%. Ça veut dire que la croissance s'est faite ailleurs. Hein. La croissance s'est faite très modestement dans les écoles, et en particulier ce qu'on appelle les grandes écoles, qui ont cru en développant en particulier leur formation de master et leur formation doctorale, mais seules quelques grandes écoles sont concernées, seules les plus grandes sont concernées, on va dire. Et donc ce n'est pas une croissance par la voie du concours, de la voie traditionnelle du concours d'entrée après les classes préparatoires, c'est une croissance par diverses voies qui a multiplié de façon sensible, mais en effectif de façon modeste, la population des grandes écoles publiques. La population des grandes écoles privées, pour sa part, a aussi cru de façon considérable. Je le disais tout à l'heure, hein, récemment, un article du Monde signalait que les grandes écoles, l'essentiel de la croissance de l'enseignement supérieur ces dernières années avait été absorbé, je crois, 18%. Vous trouvez le chiffre dans le document que je vous ai communiqué, par la croissance de l'enseignement supérieur privé. Bon, ces quelques chiffres étant donnés qui vous donnent des masses et qui laissent entendre qu'il y a des choses qui changent ici et là, et il serait surprenant qu'en un demi-siècle, rien ne change, et il serait surprenant que lorsque la population étudiante est multipliée par 7, rien ne change. Autre élément... Oui, bon, oui, je vais laisser ça. Alors... Donc, ces chiffres étant posés, je vais décrire un enseignement supérieur que je caractérise comme étant dans la tourmente. On ne sait jamais comment on sort de la tourmente, quelquefois par le haut, quelquefois par le bas. C'est un peu difficile à dire aujourd'hui, car les grandes réformes qui ont touché notre pays, comme les autres pays d'Europe occidentale, datent du début des années 2000, à l'exception de la Grande-Bretagne, qui a débuté ses réformes à la fin des années 80. Et donc, c'est une période trop courte pour qu'on puisse tirer des leçons définitives de ce qui se passe. Quel trait majeur de ces transformations ? Trait majeur, d'abord la massification, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Ensuite, une faible croissance des grandes écoles en effectif, même si, dans l'effectif global, même si du point de vue de chacune des écoles, la taille accrue de façon assez conséquente, accélération de la croissance de l'enseignement supérieur privé, et dans le domaine de la recherche, un phénomène très important qui est le développement de la mixité entre les organismes publics de recherche, à commencer par le CNRS et principalement avec le CNRS, le plus important d'entre eux, hein, et les établissements d'enseignement supérieur, les universités en tout premier lieu. Il y a aujourd'hui au CNRS principalement ce qu'on appelle les unités mixtes de recherche qui associent des chercheurs CNRS et des professeurs d'université ou d'école. Et ces unités mixtes représentent de l'ordre de 95% de l'ensemble des unités du CNRS. Ceci signifie que les organismes publics de recherche, et encore une fois principalement le CNRS, le système d'enseignement supérieur se sont croisés, se sont associés, et se sont associés sous la force, je dirais, quasi mécanique de la montée en puissance de l'enseignement supérieur comme lieu de recrutement de professeurs. La massification a induit des recrutements massifs d'enseignants du supérieur. Cette croissance massive s'est faite au détriment, ou en tout cas par un ralentissement de la croissance des effectifs des organismes publics de recherche, et la conséquence quasi mécanique de ce phénomène, ça a été qu'il devenait nécessaire, ne serait-ce que pour cette raison, de rassembler les forces de l'enseignement supérieur et des organismes au sein d'unités mixtes de recherche. La recherche a également cru dans les grandes écoles. C'est une nouveauté, la recherche dans les grandes écoles, et en particulier dans les grandes écoles d'ingénieurs. C'est une nouveauté qui n'a pas plus de 15 ans d'âge c'est une nouveauté qui est effective. La croissance des effectifs de doctorants est importante. La commission des titres de l'ingénieur revendique le tiers des thèses soutenues en sciences de l'ingénieur, qui ne sont pas majoritaires dans l'ensemble des thèses, mais c'est beaucoup. Mais cette croissance de la recherche, elle est limitée aux grandes écoles, on dirait ParisTech, les 10-12 établissements de ParisTech, qui aujourd'hui se rassemblent, pour la plupart d'entre eux, sur le plateau de Saclay, dans ce vaste projet ambitieux et périlleux. Alors, tout cela donne déjà un millefeuille, on parle beaucoup de millefeuille aujourd'hui, un millefeuille et des périmètres incertains entre les institutions. D'abord, une fragmentation institutionnelle, je vous l'ai dit, mais une fragmentation institutionnelle qui s'associe à des intersections nombreuses entre toutes ces institutions. Les UMR, j'en ai parlé, unité mixte de recherche, les masters et les doctorats qui, de plus en plus souvent, rassemblent différents établissements, qui peuvent être des établissements universitaires ou des établissements qui sont des écoles. De nouveaux dispositifs sont venus ajouter à la complexité de ces périmètres, puisque les lois sur la recherche et sur les universités, respectivement 2006 et 2007, les lois Pécresse, ont créé des pôles de recherche et d'enseignement supérieur, des campus, des réseaux thématiques de recherche avancée, etc., dont les périmètres sont variables et ne s'emboîtent pas nécessairement les uns dans les autres. Donc on a une espèce de paysage en mosaïque, en écaille de tortue, en quelque sorte, qui se superpose partiellement, ce qui crée un paysage évidemment particulièrement complexe, dont la complexité a été accrue par les investissements d'avenir, la création des établissements d'excellence, des IDEX, des laboratoires d'excellence, des équipements d'excellence, etc., etc. Et puis, en 2013, la loi dite ESR, Enseignement supérieur et recherche, qui a rajouté une couche à tout cela, avec les communautés d'universités. Je n'entre pas dans les détails, on en reparlera si vraiment la question vous intéresse. Donc, nous vivons avec un héritage où s'entrecroisent, dans tous les sens, de multiples parties prenantes, chacune d'entre elles généralement farouchement agrippée à son identité historique, et, dis-je dans le papier que je vous ai communiqué, offrant de Sirius ou plus près d'Amérique ou de Shanghai un paysage particulièrement confus, peuplé de luttes étranges et probablement en large partie stériles. Comment se caractérisent nos établissements dans le monde des universités à l'échelle mondiale ? Ces grands palmarès, dont on reparlera si vous le souhaitez dans le détail, ces grands palmarès qui sont nés au début des années 2000, hein, Shanghai, qui a fait tant de bruit en France, c'est 2003. Ces grands palmarès, ils signent en quelque sorte la mondialisation du marché de l'enseignement supérieur. Les universités, traditionnellement, vous le savez ici en France, mais c'est vrai partout ailleurs, sont des objets nationaux, sont des expressions de la puissance nationale, et d'ailleurs leur puissance évolue vers le haut ou vers le bas en fonction des rapports de puissance des nations. La globalisation de l'enseignement supérieur se traduit par... La globalisation de l'enseignement supérieur qui apparaît à travers dont au fond ces classements sont le symptôme, la globalisation de l'enseignement supérieur a subitement fait se comparer entre elles des universités qui, en particulier en Europe occidentale, n'avaient jamais eu l'habitude, ni même l'idée de se comparer pour mille et une raisons sur lesquelles je reviendrai. Ces classements font apparaître une position médiocre de la France. Nous avons actuellement... Nous avons actuellement 20 universités au classement de 2013 parmi le top 500. Hein, on classe ces universités comme les chanteurs. Nous avons 4 universités dans le top 100 et nous avons 0 université dans le top 10. Comparé à cela, les États-Unis qui ont 8 universités dans le top 10, la Grande-Bretagne qui en a 2. Et puis c'est tout dans le top 10. Ben oui, 8 et 2, ça fait 10. Hein. Bien. Alors, l'une des questions... Et en Europe, nous ne sommes pas si bien placés que cela, puisque alors que nous avons 20 universités dans le top 500, Les Allemands en ont 37 et les Britanniques en ont 37 également. Et la Suisse, championne du monde, toute catégorie, en a 6 sur 10 universités plus 2 écoles polytechniques fédérales. Ce qui est un score magnifique avec l'ETH de Zurich qui est 20e du classement de Shanghai. Donc un positionnement qui n'est pas un positionnement extraordinairement faste. Alors on peut se consoler en se disant qu'aux États-Unis, s'il y a 8 universités qui sont dans le top 10, qu'il y en a ces 8 et s'il y en a 146 qui sont dans le top 500, ces 146 ne représentent que 3,3% de l'ensemble des universités américaines, puisqu'il y a aux États-Unis plus de 4400 universités de différentes catégories. Mais enfin, c'est une consolation relativement modeste. Alors, ces classements, ils sont contestés, mais ils font autorité. On ne peut plus vivre dans ces classements, car ces classements ne sont pas le produit des autorités publiques, des États ou des régions politiques du monde. Ce sont des produits de la société civile qui circulent tout seuls. Et un classement vaut ce que vaut la croyance qui s'y attache. Alors, on a contesté les méthodologies également. Force est de constater que, quel que soit le classement que l'on prend et la variété des méthodologies, on trouve à peu près les mêmes institutions aux mêmes endroits. Et de surcroît, on a beaucoup contesté, et à très juste titre, le fait qu'une position d'un établissement se réduise à une note dans une liste de notes, donc à une note unidimensionnelle. Aujourd'hui, les classements sont pour la plupart customisables, on dit, c'est-à-dire qu'on peut les structurer par secteur disciplinaire, région, institution, etc. Donc on a des dispositifs méthodologiques qui s'affinent, qui peuvent toujours être discutés, mais qui néanmoins donnent de façon récurrente des résultats de même nature. Alors qu'est-ce qui, dans tout ça, tient aux dynamiques aux caractéristiques de l'Europe, et qu'est-ce qu'il y a de commun dans les évolutions des établissements français et dans les évolutions des établissements des autres établissements européens? Premier point. Je vais axer mes propos sur deux points. Premier point, une tentative de passage d'une situation d'uniformité à une situation de différenciation des établissements, et d'autre part, une tentative de passage d'une situation d'université fragmentée en sous-ensemble à des universités concentrées autour d'une même conception ou une même performance en termes de qualité. C'est-à-dire, au fond, d'un monde d'État-providence à la française, mais aussi à l'allemande, à l'anglaise, à l'italienne, etc., à un monde où les universités sont effectivement des univers différenciés et des univers concentrés en termes de qualité, je veux dire les États-Unis. Alors, les classements dont je parlais tout à l'heure ont été un choc très violent, vous en souvenez sans doute, ça a été le cas également dans d'autres pays européens, et ça a été un choc qui a, au fond, stimulé les réformes qu'on a vues apparaître à ce moment-là, mais ces réformes étaient elles-mêmes le produit d'évolutions qui avaient eu lieu au cours des 30 années précédentes. Ces classements, ils montrent quoi? Ils montrent que nos universités sont en difficulté du point de vue des critères de ce qu'on appelle l'excellence, et on pourra discuter ce terme et ses contenus, sont en difficulté en tant que service public. Mais c'est tous les services publics qui, au même moment, sont contestés dans leur fonctionnement et dans leur coût. Ce sont des mondes qui vivent sur un même régime réglementaire et un statut unique, avec un corps professoral qui fait partie de la fonction publique. Ces choses-là vont évoluer dans un certain nombre de pays, pas en France. Avec un service public présumé uniforme sur l'ensemble du territoire, il ne l'est pas réellement, car si vous regardez la concentration des unités CNRS dans les universités françaises, vous apercevez qu'il y a une très forte concentration, 50% de la population du CNRS est concentrée dans 14 universités sur 86, ça, je vous rappelle, au tournant du XXe siècle. Mais le service public est présumé uniforme, satisfaisant ainsi notre célèbre passion pour l'égalité. L'accès libre de l'université est garanti, l'accès gratuit ou quasi-gratuit est garanti, et les diplômes délivrés sont accrédités par l'État. Voilà un ensemble de normes qui ligotent, au fond, les universités. En tout cas, telle est l'analyse qui est faite au tournant des années 2000. Et ces universités se trouvent en difficulté par rapport à cette liberté d'action. C'est ce qui va conduire à l'idée de les autonomiser. Au moment même où elles sont prises dans une tension extrêmement forte, avec d'un côté leur réévaluation dans ce qu'on appelle à ce moment-là la société de la connaissance, c'est-à-dire le rôle l'accroissement de leur rôle qu'on en demande dans une société à la frontière de l'innovation technologique et dont l'innovation ne peut passer que par une innovation scientifique majeure, donc le rôle des universités doit s'accroître, mais au même moment, la pression sur les budgets publics, qui ne veut pas dire une régression des budgets publics, mais qui veut dire que le nombre de candidats sur l'ensemble des budgets publics s'accroissant, et le nombre de problèmes s'accroissant, eh bien, les budgets doivent être contenus. Donc, dans cette double pression, les universités doivent trouver leur chemin. C'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Grande-Bretagne, c'est vrai partout. Alors, deux mots juste pour opposer l'Europe et les États-Unis. En Europe, au fond, et c'est vrai pour les universités qui sortent de la tradition humboldtienne à l'allemande, et c'est vrai pour les universités de la tradition napoléonienne à la française, c'est la communauté nationale qui est censée avoir un rôle majeur en ce qui concerne les politiques universitaires. Et ceci passe par l'université, par l'uniformité du traitement de ces établissements. Et l'objectif de l'État, c'est le rôle de l'État, c'est de protéger l'université contre le débordement des intérêts particuliers. Situation très différente de la situation américaine, où le rôle majeur est dévolu à la communauté locale, dans un espace différencié, et la communauté locale ayant pour rôle de protéger le monde académique contre l'excès des pouvoirs étatiques en intégrant les intérêts particuliers, d'une part, plutôt que les repoussant, mais tout en les maintenant à distance à travers des gouvernances spécifiques. Ce que vont tenter les universités, les administrations européennes en matière d'enseignement supérieur, c'est assez similaire à ce qu'ils vont tenter dans des tas de domaines, la santé par exemple, la justice, etc., c'est d'introduire dans le monde universitaire une nouvelle gestion publique qui suive un ensemble de changements progressifs qui ont eu lieu au cours des 30 dernières années, des 30 années précédentes, mais la possibilité de faire changer les universités de façon progressive a atteint ses limites et il faut faire un saut. Donc, la nouvelle gestion publique s'introduit dans cet espace de l'université avec pour objectif d'être un outil de rationalisation qui, à travers la décentralisation vers des unités opérationnelles qui s'appellent des universités et dont on attend une efficacité à la fois en termes budgétaires et une efficacité en termes de différenciation de l'offre universitaire. Alors évidemment, cet exercice a des limites, elles sont soulignées abondamment, les universités ne sont pas des organisations comme les autres, elles ont une multiplicité de missions, leur objectif n'est pas lucratif, et elles sont donc, dans ce mouvement vers la nouvelle gestion publique, dans une situation où elles redoutent une tension accrue entre les exécutifs universitaires et le pouvoir académique. Ce que vont inventer tous ces États pendant cette période, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, ils vont faire en sorte de monter des dispositifs qui autorisent un pilotage direct par la tutelle, fondé non plus sur de l'évaluation de besoins a priori, le nombre d'étudiants en particulier, réalisé non plus par l'allocation de ressources ligne à ligne, c'est-à-dire tant pour les trombones, tant pour les locaux, tant, etc., non plus par un contrôle en conformité, mais à travers un pilotage à distance fondé sur des incitations émanant du centre, l'autonomie des établissements et la responsabilité des établissements mesurée par des dispositifs ex post, c'est-à-dire des mesures de performance calées sur un ensemble d'indicateurs. Là aussi, on peut discuter de tout cela. L'autonomie des établissements, ça suppose le transfert des ressources, le personnel, le foncier, le budget, la création d'outils de gouvernance, donc des présidences renforcées, des conseils transformés, des formations aux outils du pilotage organisationnel dans les universités, l'introduction de la comptabilité analytique dans les universités qui n'existait pas, la gestion des ressources humaines. Tout ça, évidemment, est bien, bien difficile à réaliser par des universités qui ne sont pas calibrées à ce stade pour répondre à ces activités. Et puis la responsabilité des établissements par des évaluations de la performance. Donc, à travers tout cela, C'est une espèce de rêve qui se, un rêve qui pourrait être un cauchemar, ça dépend comment on le regarde, hein. Une espèce de rêve, le rêve américain de la territorialisation de l'enseignement supérieur qui se met en œuvre. Au centre, les universités au plus près des terrains où elles peuvent à la fois connaître les demandes et diversifier leurs ressources. Les universités comme des communautés hétérarchiques, c'est-à-dire différents, composées d'entités diverses, mais des entités réunies par des valeurs et des dispositifs normatifs qui assurent la communication entre ces ensembles hétérogènes. Des universités parce qu'autonomes, porteuses de stratégies cohésives, elles connaissent les ressources, elles connaissent les demandes, elles peuvent construire une cohérence stratégique. Et elles peuvent se centrer sur des horizons qui leur sont propres et par conséquent se diversifier. Le modèle idéal, c'est le modèle des grandes universités de recherche américaines, comme je le disais, où on vit dans un dispositif vertueux dans lequel des ressources abondantes captées à différentes sources, diversifiées, une gouvernance équilibrée, et l'attraction des talents fonctionne ensemble. Si vous avez des talents, vous allez capter des ressources. Pour capter des ressources, il faut que vous ayez aussi les moyens d'avoir un équilibre de gouvernance interne. Et vous avez une circularité, un cercle vertueux qui se met en place, pas tout seul, mais qui fonctionne assez bien, même très bien, dans les grandes universités de recherche américaines. On constate en effet que dans les universités européennes qui ont fait ces démarches, eh bien, la dynamique organisationnelle, la reconfiguration des ressources, l'adaptation aux évolutions de la demande et des opportunités ont bien lieu en ce moment à travers les pays européens avec des succès tout à fait spectaculaires dans un certain nombre de régions et en particulier en Europe du Nord. Je pense aux pays scandinaves, je pense aussi à un certain nombre d'établissements en Allemagne. Qu'en est-il en France ? Eh bien, en France, autonomie, certes, on a beaucoup parlé de l'autonomie, on en parle encore beaucoup, une autonomie qui, paradoxalement, est dénoncée comme nous étranglant par, en tout cas, un certain nombre d'acteurs. Mais c'est une autonomie très contrainte. C'est une autonomie qui a été calibrée, là aussi, par une recherche de l'Association universitaire, l'Association européenne des universités, en 2009, qui montre que sur 4 dimensions, alors je vous épargne, vous les avez dans le papier, la liste des indicateurs, sur 4 dimensions, l'autonomie organisationnelle, l'autonomie financière, l'autonomie en matière de gestion des ressources humaines, l'autonomie académique, la France est respectivement classée sur les 28 pays étudiés, 16e pour l'autonomie organisationnelle, pas trop trop mal, pas très très bien, 22e pour l'autonomie financière, 27e pour l'autonomie dans la gestion des ressources humaines et 28e pour l'autonomie académique. Okay ? Donc, l'importance de l'encadrement national, des statuts, des salaires, des curricula, de la gouvernance, etc., évidemment, contribue à cette performance ou cette contre-performance et contribue aussi à des effets qui sont des effets assez négatifs sur la dynamique des universités. Ajoutons à cela l'asymétrie de traitement entre les universités et les écoles. Les écoles sélectionnent, les universités ne sélectionnent pas. Dans un monde où une partie sélectionne et l'autre pas, on sait très bien ce que ça organise comme dynamique. D'ailleurs, les IUT, je vous ai dit tout à l'heure, sont un succès absolument notable puisqu'ils ont été multipliés, ils ont multiplié leurs effectifs par 45 depuis les années 60. Bon, ils partaient très bas, bien sûr, puisque c'est l'époque où on les a créés. Mais le grand, très grand succès des IUT vient de leur sélectivité. Tout le monde s'accorde à cela. Et d'ailleurs, ceci a conduit à organiser des passerelles qui font que finalement, les IUT sont des espèces de classes préparatoires de masse, si vous voulez. Hein, passerelles qui permettent de réintégrer l'université ou les écoles. Formule de valorisation en France, une formule unique, ce qu'on appelle le modèle sympa, c'est-à-dire que l'idée, que l'on puisse étalonner la performance des disciplines selon des critères variée est une idée qui est repoussée par l'existence même de ce mode de comptabilisation de la performance dans les universités. On pourra revenir si vous voulez. Alors évidemment, tout cela produit beaucoup d'effets pervers. L'encadrement national uniformise les cadres d'action plutôt qu'il n'encourage l'élaboration endogène des normes. L'encadrement national fournit des armes de la résistance à l'innovation locale. Il rend difficile l'innovation pédagogique et l'attention à la diversité de la demande. L'asymétrie de sélection dévalorise automatiquement les non-sélectifs, dégrade les conditions d'études, encourage la concurrence du secteur privé professionnel. Les familles votent avec leurs pieds, bien souvent à tort et bien souvent en toute méconnaissance de cause, mais en faisant confiance à des signaux qui sont tout simplement le fait que les formations qu'on leur propose sont payantes et doivent donc être performantes. La formule unique de valorisation que j'évoquais, le système sympa, prend pour référence, c'est un autre gros inconvénient, prend pour référence positive l'université de recherche et encourage l'isomorphisme, c'est-à-dire le fait que tout le monde court dans la même direction. Or, les universités de recherche à travers le monde représentent moins de 3% de l'ensemble des universités, et il faut bien savoir que faire des 97% qui restent, et certainement pas les faire courir dans la même direction que les universités de recherche. Il y a de nombreuses et nobles missions dans l'enseignement supérieur qui peuvent s'accommoder de diversification à condition que la diversification soit aussi valorisée positivement. Donc l'ensemble de cette configuration évite d'assumer l'objectif de concentration, car pour concentrer la qualité de recherche dans certains établissements, au détriment d'autres, cela suppose d'accepter la segmentation du monde universitaire. C'est ce que fait le monde américain, qui n'a pas que des vertus et qui n'est pas sans problème non plus. C'est ce que ne parvient pas à faire le monde français, pour mille et une raisons que vous connaissez comme moi, sont des sujets trop dangereux pour qu'on s'y attarde beaucoup. À cela, vous ajoutez le fait que les moyens des universités sont dramatiquement bas. La France, comme l'Europe, a des universités qui sont dans une course-poursuite permanente entre les effectifs et les moyens, avec des budgets moyens par étudiant qui sont faibles. Une grande variance, budget moyen en 2011, ça doit être autour de 11 000 euros par étudiant. C'est la tranche basse des pays avancés d'Europe occidentale. Une très grande variance entre 7 000 dans les universités moins bien dotées et puis 13 000 dans les mieux dotées. Une diversité, une différence également très notable de financement des écoles et des universités. Alors, tout cela, évidemment, affecte certes les salaires, mais les salaires sont des salaires de la fonction publique, mais je dirais surtout les conditions et les moyens de travail et donc nuit à l'attractivité de nos établissements. Et décourage donc les talents, puisque, on le sait, il y a une réciprocité de l'attraction des talents entre les universitaires et les étudiants. Et c'est cette attractivité réciproque qui explique le très grand succès d'un certain nombre de grandes universités de recherche. Ceci s'assortit également d'une segmentation croissante du marché du travail universitaire avec un marché mondial où circulent les stars, des locaux honorables d'ailleurs, sur un marché interne national, difficile d'accès mais surprotégé de fait, et puis la croissance des personnels non permanents qui est aussi un phénomène mondial. Il faut savoir qu'aujourd'hui dans nos universités, nous avons 22% d'enseignants qui ne sont pas des enseignants permanents. Et ce chiffre est en croissance dans tous les pays du monde. Cette faiblesse que je décrivais à l'instant, elle est peu compensée par les écoles, ne serait-ce que parce que les écoles représentent un tout petit effectif d'étudiants, et puis aussi parce que dans les écoles françaises, et j'ai passé quelque temps au MIT récemment, et je ne pouvais m'empêcher de faire des comparaisons avec nos établissements d'excellence, en France, on vit quand même dans un monde où tout se joue en prépa. Tout se joue en prépa et bien ça a toute une série de conséquences. Je n'entre pas dans les détails, Nous les connaissons. Par ailleurs, seulement certaines écoles préparent à la recherche. Et d'ailleurs, récemment, le nouveau président exécutif de l'École polytechnique s'est donné pour horizon d'avoir une performance similaire à celle de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui a connu une croissance absolument exceptionnelle au cours des 15 dernières années, entre autres grâce à un président lui-même exceptionnel. Les écoles ne sont pas, pour l'essentiel, des lieux où l'on se forme à la recherche. Lorsque la recherche s'y développe fortement, c'est le cas à l'École polytechnique, eh bien, la recherche est, en quelque sorte, découplée de l'enseignement. Hein, vous avez des laboratoires CNRS qui prennent la réputation de l'École polytechnique et qui apportent leurs effectifs et leurs compétences exceptionnelles en recherche. Puis, de l'autre côté, vous avez une école qui forme des étudiants, mais entre les deux, la connexion est relativement modeste. Beaucoup trop d'écoles sont de taille sous-critique sont donc mal placées pour développer des écoles graduées, comme c'est le cas dans les grands pays de recherche. Quelques conclusions. Le tableau est un petit peu sombre. Alors, si on veut corriger un peu le tableau, on peut dire que la France émarge, c'est le CNRS principalement, et le pays qui émarge le plus à l'European Research Council, c'est-à-dire que nous sommes capables d'apporter des opérations très performantes ou des jeunes de très grande qualité sur les grands concours européens qui aujourd'hui fixent la cote, si vous voulez, des pays qui les portent. On peut dire aussi que les politiques qui ont été menées depuis le milieu des années 2000 ont eu des effets sensibles, insuffisants certes, mais sensibles sur le positionnement des universités dans les grands classements. Alors on peut considérer que c'est un bien dans l'absolu, on peut se poser des questions sur le prix auquel on parvient à ces résultats, en termes de taille d'établissement par exemple. Enfin, toujours est-il que ces réalités existent. Ce processus d'évolution, je crois très réellement qu'il est engagé, que nous sommes dans un monde très différent de celui de la fin des années 90. Les uns s'en plaignent, les autres s'en félicitent. Moi, je ferai plutôt partie des gens qui s'en félicitent, car le goût pour un âge d'or dont on a oublié tous les inconvénients est souvent très présent dans les universités comme ailleurs. Mais ce processus, il est engagé, certes, mais il est difficile et il est menacé. Pourquoi est-ce qu'il est difficile et menacé? Du fait, d'abord, du surinvestissement symbolique des réformes, qui fait obstacle au traitement de problèmes majeurs. Par exemple, achever l'autonomie. Vous avez vu les rangs que je vous ai donnés tout à l'heure. Achever l'autonomie, ça suppose que l'administration centrale soit capable, ait envie, puisse se dessaisir de son contrôle de détail. Si vous lisez les 88 pages de la loi ESR de Madame Fioraso, vous verrez qu'en 88 pages, on ne vous épargne aucun détail. C'est pas ça, une tutelle qui dirige à distance. Et puis, réciproquement, la difficulté des établissements à assumer l'autonomie, en particulier sur fond de stagnation budgétaire et de redistribution budgétaire liée aux grandes opérations d'excellence. Difficulté à assumer l'autonomie, une affaire récente, je ne sais pas si vous avez vu ça dans le journal, moi je suis ça en détail, voit s'affronter la ministre et une présidente d'une université du sud-ouest de la France. La présidente de cette université dit à la ministre que son budget ne lui permet plus d'entretenir une antenne située dans son aire de compétence. Et que par conséquent, elle va la fermer. Il s'agit en quelque sorte d'un chantage assez classique dans le mode d'opération classique de la relation entre les tutelles et les établissements. La ministre, qui dans ces circonstances aurait dû, à mon sens, répondre à la présidente, « Chère madame, c'est votre université, c'est à vous de savoir si vous devez garder vos antennes ou les fermer », répond à la présidente, « Il n'en est pas question, vous ne fermerez pas cette antenne ». Que fait la présidente derrière et son conseil d'administration? Elle dit « Oui, mais moi, je n'ai pas d'argent, donc si vous m'en donnez un peu, je vais peut-être pouvoir faire face ». Bon, voilà ce que j'appelle l'incapacité à des établissements à jouer le jeu de l'autonomie plutôt que le jeu de la négociation directe avec la tutelle. Ces développements, évidemment, handicapent, un certain nombre de développements qui sont propres à ces réformes handicapent la poursuite même de ce développement. Par exemple, pour ce qui concerne la convergence entre établissements et organismes, tout un ensemble de... Bon, il y a eu beaucoup de convergences ces dernières années. Le président du CNRS n'y est pas pour rien. L'actuel président n'y est pas pour rien. Mais c'est une histoire au long cours. Cette convergence, elle pourrait souffrir des difficultés que j'évoquais. On est dans une situation très paradoxale d'un ce que tout le monde appelle un millefeuille institutionnel. Ce millefeuille institutionnel, il faut se souvenir qu'il est construit pour simplifier le paysage de l'enseignement supérieur en France, hein, puisqu'il est construit pour faire bouger les lignes. Et puis enfin, développer des opérations d'excellence dans un univers fragmenté, ça ne va pas de soi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça ne va pas de soi parce que si vous développez une opération dite d'excellence dans un univers qui ne l'est pas tout uniment, alors vous courez de grands risques, s'il n'y a pas un soutien politique très fort des présidences d'université, que les efforts de l'opération d'excellence soient annihilés par les résistances appuyées sur la disponibilité de règles nationales et locales. Voilà. Alors, dans tout cela, donc un processus difficile, un processus menacé et un processus continue de se développer alors que, disent des collègues britanniques, « an avalanche is coming », une avalanche menace. Une avalanche menace, qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle mondiale? Cela veut dire qu'on assiste aujourd'hui, sur le plan international, au découplage des trois unités qui fondent les universités comme des institutions depuis fort longtemps, et en particulier depuis le tournant du XXe siècle. Unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Unité de lieu, on parle beaucoup de MOOCs, nous venons de découvrir en France les MOOCs, c'est-à-dire l'enseignement à distance. On parle beaucoup de MOOCs, les moyens technologiques permettent évidemment de délocaliser les lieux de production de la formation par rapport aux lieux de réception de cette formation. Unité de temps, eh bien, le développement de la formation tout au long de la vie, le développement conduit à ne plus concevoir les universités comme une période, comme un lieu qui accueille pour une période de temps fixe, de tant d'années, un certain nombre d'étudiants destinés à recevoir un diplôme national. C'est l'unité d'action. Aujourd'hui, le diplôme, à certains égards, est survalorisé. À d'autres égards, les formes de diplomation non nationale par des grandes entreprises internationales, par exemple, se développent et donc tentent à dissocier l'action de sa présence, son enfermement dans un lieu physique qui rassemble une communauté universitaire. On a de nombreux exemples à travers le monde, en particulier aux États-Unis, mais pas seulement, en Europe également. Par exemple, si vous allez regarder un peu ce qui se passe sur les marchés financiers, vous verrez qu'aujourd'hui, on achète et on vend en bourse des réseaux d'établissements. J'ai encore vu une opération de cette nature, une grosse opération de cette nature, il y a quelques semaines. Alors, des modèles pour le futur. Que disent nos amis Baker et ses co-auteurs? An avalanche is coming. Ça veut dire quoi, cette dissociation, ce découplage des trois unités qui constituaient l'université traditionnelle? Eh bien, nous disent-ils, les universités dans l'avenir sont destinées à se différencier. On revient sur cette notion de différenciation pour trouver la niche dans laquelle ils attireront des étudiants. Et ils conçoivent 5 catégories d'universités. On peut discuter de cette conception. D'abord, les universités d'élite. Ils nous disent, les universités d'élite, elles résisteront. Elles résisteront parce qu'elles ont une très forte concentration de qualité. La question est de savoir comment, d'abord, si nous avons la capacité encore aujourd'hui d'entrer dans la course de ces universités d'élite ou de devenir simplement des sous-traitants dispositifs de formation qui auraient été inventés et formulés ailleurs. Donc des universités d'élite, des façonniers de formation à distance. Les façonniers de formation à distance, c'est ce que vous trouvez, on en parle beaucoup ces temps-ci, c'est edX à Harvard, enfin, c'est l'organisation qui met en musique l'utilisation à distance des formations de Harvard, MITx au MIT, c'est Coursera à Stanford, auquel s'est ralliée par exemple l'école polytechnique. Donc on voit comment ces grands réseaux disloquent à nouveau la capacité nationale de maîtriser les systèmes de formation d'enseignement supérieur. Des universités de masse, troisième niche, l'université de masse, nous connaissons bien. Ce qui est important, c'est de charger en signification positive ces universités de masse. Des universités privées de niche, ça n'est pas tellement pour nous, les Britanniques et les Américains sont très bons là-dedans, hein, le campus de luxe avec de belles pelouses, des salles de sport sous les dortoirs, etc., etc. Bon, mais voilà, ou la Suisse, bien sûr. Et puis des universités locales qui sont très arrimées au bassin d'emploi locaux. Ceci pose deux questions, et j'en finis là. La première, c'est de savoir quelles conséquences ces reformulations ont-elles pour l'attractivité et la qualité de l'enseignement supérieur français dans toutes ces missions. Et la deuxième question, c'est quelle capacité d'action les établissements français ont-ils pour sortir du cercle vicieux de leur affaiblissement en exploitant au mieux les ressources investies dans sa transformation. Je vous remercie.